France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT Sandin the House.
Radio Rosana Piparis.
Produce ghetto en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
L'Iran tue derrière un blackout total. Ce régime tient-il vraiment à un fil? Qui le tient encore en vie? Que disent les alliés naturels? Est-ce qu'il faut croire Trump quand il menace de bombarder? S'il le faisait, pour faire quoi? Nous en parlons dans moins d'une minute avec l'invité d'Un jour dans le monde, où l'on reparle d'une armée européenne. Mais vraiment, elle semble encore bien loin, cette armée, nous dira Louise Baudet, qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est à Minneapolis, 5 jours après la mort de René Good. La colère, c'est tous les jours dans les rues désormais.
Le narratif de Trump est complètement faux. C'est un mensonge après l'autre. Et je suis frustré que tant de personnes dans ce pays refusent de défier ce mensonge, parce qu'ils ont peur de s'exprimer.
Un reportage de Franck Madvon à découvrir ensemble autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Oda a trouvé le musée national de Khartoum au Soudan qui se réinvente visuellement pour préserver la mémoire des œuvres pillées pendant la guerre civile. Cyril Sauvageau a mis Björk dans la BO du Monde et son soutien au Groenland. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y. C'est le président du Parlement iranien qui parle, il s'adresse aux Américains, il dit ceci: venez brûler si intensément dans le feu des défenseurs de l'Iran que cela devienne une leçon inoubliable dans l'histoire des dirigeants cruels de l'Amérique. Nous donnerons une leçon à ces dirigeants cruels. Bonsoir Clément Terme.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de cours à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Vous avez écrit notamment Téhéran, Washington, 79-2025 chez Hémisphère. Et puis aussi, idée reçue sur l'Iran, un pouvoir à bout de souffle chez le Cavalier Bleu. Et justement, ce sera ma première question, Clément Terme. Est-ce qu'il suffit d'être à bout de souffle pour tomber? On a l'impression que l'Iran nous prouve le contraire.
Alors oui, on a longtemps dit la même chose du régime de Bachar al-Assad, qui a fini par s'effondrer, même si la situation est différente. Donc il faut se méfier des prédictions. On disait aussi que l'ancien régime, donc le régime du Shah d'Iran, ne tomberait pas. Et c'est que quelques jours avant la révolution, finalement, de 1979, que les ambassades, que les journalistes, les médias ont compris. Donc les révolutions sont par définition imprévisibles, parce que le fameux point de bascule est difficile à anticiper, c'est-à-dire le moment où les forces de sécurité qui sont encore loyales au régime en place basculent du côté des manifestants. Donc pour cela, il faudra que les manifestations s'inscrivent dans la durée. Pour l'instant, la répression s'accroît, donc on a plusieurs centaines de morts du côté des manifestants, et donc la mobilisation continue, et plus le régime réprime, plus l'économie s'effondre. Donc on a l'impression que toutes les décisions qui sont prises actuellement pour essayer de répondre aux manifestations et juguler la contestation, finalement, affaiblissent la légitimité de la République islamique, qui est en crise depuis de nombreuses années.
Mais justement, il tient par quoi? En fait, on a bien compris qu'il était enfermé dans son idéologie, donc il tient par la violence, il tient par la peur, il pense, vous nous l'avez dit, que l'escalade finira par faire taire la rue. Et en même temps, on sait bien aussi que c'est une stratégie qui est vouée à l'échec. Qu'est-ce qui tient encore? Le fil qui tient, c'est quoi, s'il y en a encore un?
Alors pour l'instant, la République islamique tient parce qu'elle a encore la plupart des armes, hein, donc c'est par les armes. Les Iraniens, la population dans sa majorité n'est pas armée. Donc la population doit espérer que les forces de l'ordre les rejoignent. Le problème, c'est l'endoctrinement, c'est un régime idéologique. Et donc les partisans du guide suprême sont endoctrinés et croient dans la République islamique, dans la révolution, et pensent qu'ils ont un devoir divin de lutter pour la survie du régime. Donc c'est pour ça qu'il y a une difficulté. Donc il y a aussi la possibilité d'une division interne qui pourrait conduire à la chute si des divergences émergent, si le mouvement se poursuit, sur comment assurer la survie de la République islamique et quelle est la meilleure politique pour ce faire. Donc ils peuvent aussi, à un moment donné, avoir des débats internes. Mais là, on est dans la spéculation. Pour l'instant, la question, c'est est-ce que les manifestations peuvent perdurer? Et comment, en fait, cette demande sociale majoritaire en Iran peut dégager sur un projet politique positif? Donc, pour l'instant, tout le monde est d'accord contre la République islamique, mais il faudrait qu'il y ait une alternative. Et là, si un espace se dessine, si les manifestations se poursuivent, cela pourrait créer petit à petit un espace politique à l'intérieur du pays pour qu'une alternative émerge.
Mais alors, l'espace dont vous dites, est-ce que Reza Pahlavi, donc le prince héritier, c'est l'espace positif? On a plutôt l'impression que c'est le faute de mieux, en fait. D'ailleurs, on se demande comment le nom est sorti du chapeau. Donc, est-ce que cet espace, c'est peut-être celui-là, même s'il n'est pas pérenne, est-ce que c'est au moins un espace ou pas?
Alors c'est un symbole, puisque son nom est connu, on scande son nom depuis 2017-2018, donc c'est pas nouveau que des manifestants en Iran fassent appel à Reza Pahlavi. Il a des médias, comme le média en persan le plus regardé, Iran International, donc il a des relais médiatiques, et il a la nostalgie en fait. Donc son défi, la majorité de la population est nostalgique de la période précédente, puisque l'économie était en meilleur état qu'aujourd'hui, la politique étrangère défendait les intérêts économiques du pays, et il y avait un certain niveau de sécularisation. Donc bien sûr qu'il y a aussi une mémoire conflictuelle parmi notamment les mouvements de gauche iraniens qui ont combattu l'ancien régime, mais qui ont été aussi éliminés par le nouveau régime.
Mais...
Donc il représente, si vous voulez, un symbole de l'unité nationale, de l'Iran, qui défend un gouvernement qui défend les intérêts nationaux du pays et pas un gouvernement comme le gouvernement actuel qui a un projet idéologique transnational.
Mais est-ce qu'il est acteur de ce moment, vous direz ça ? Est-ce qu'il se rêve acteur de ce moment ? Est-ce qu'il le soutient ? Est-ce qu'il attise les manifestations ? C'est compliqué de comprendre où il se place réellement.
Sa trajectoire est compliquée parce qu'il a quitté l'Iran adolescent, donc il n'est pas non plus responsable des actions de l'ancien régime, il était trop jeune pour être à l'époque
aux
responsabilités. Et donc c'est surtout son grand-père d'ailleurs qui est populaire en Iran, Reza, donc, qui lui a fondé la dynastie en 1925, qui a régné jusqu'en 1941. Parce qu'il est le fondateur de l'État moderne iranien, de la sécularisation par le haut, et il représente un modèle de séparation de la religion et de la politique. Donc c'est à la fois une réaction contre la situation en cours, c'est-à-dire on utilise des slogans pour rétablir l'ancien régime, comme en fait on lancerait une gifle au régime en place, qui a passé son temps à dénigrer, qui a peur de Reza Pahlavi, qui mène des campagnes très actives au niveau des médias officiels, etc., pour le décrédibiliser et pour s'opposer à cette figure qui émerge en ce moment. Et il est émergé finalement dans le débat public en 2017-2018, donc lors des manifestations de l'hiver, au moment de la nouvelle année également, qui avait vu les premiers slogans, surtout invoquant son grand-père. Donc c'est faute de mieux, et en même temps, il propose une plateforme. Après, il ne fait pas l'unanimité parmi les différents mouvements d'opposition. Il y a certains, par exemple, mouvements minoritaires qui représentent les Kurdes ou certaines minorités qui s'opposent aussi, mais qui s'opposent de toute façon à tout projet national qui promeut un État fort et un État centralisé.
Parce qu'en même temps, et pardon de vous faire faire de la politique fiction, Clémentaire, mais la question qu'on se pose, c'est si demain, pour une raison ou pour une autre, et d'une manière ou d'une autre, on va parler de Trump dans une seconde, si demain le guide suprême disparaissait, qu'est-ce qui se passe en Iran ? Enfin, il ne peut rien se passer, j'imagine, de miraculeux avec le prince héritier qui déboule et puis subitement tout va bien. C'est évidemment nettement plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe réellement si le guide suprême disparaît ?
Alors, il y a plusieurs scénarios. Là, vous évoquez un scénario simplement d'une succession interne à la République islamique. C'est-à-dire, la constitution de la République islamique prévoit la succession. Il y a l'Assemblée des experts, qui est un organe qui se réunit, qui est composé d'un peu plus de 80 religieux, de clercs très âgés, comme le guide suprême, qui ont les mêmes idées que le guide suprême. Donc, ils trouveront facilement soit un collectif, soit un remplaçant, son fils ou un autre.
Mais s'il tombe, ça veut dire,
entre guillemets.
Mais s'il tombe, ça veut dire que c'est le régime qui tombe. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À l'heure 1, il se passe quoi, en fait ?
Non, on n'est pas dans... En fait, il n'y a pas d'automaticité. Ça, c'est la théorie du choc que vous évoquez. Si vous pensez, ça, c'est une théorie, c'est une spéculation. On ne sait pas, à cette heure-ci, si Rabbeinu tombe, si ça suffit à faire tout le système, que tout le système s'effondre.
Et c'était ça ma question, en fait. C'était ça ma question, en fait. S'il tombe, lui, est-ce que ça veut dire que le système s'effondre derrière lui ou pas du tout, en fait ? Ça, c'est peut-être de la pensée magique, en quelque sorte.
Non, c'est pas forcément. C'est pas non, c'est possible. Tout est possible. On peut pas prédire l'avenir, mais c'est pas automatique en tout cas. Ce qui est possible, c'est que oui, il est le point d'équilibre du système. Il représente quand même le chef d'État, donc il est le chef des armées. Constitutionnellement, c'est le plus haut personnage de l'État en République islamique, et c'est surtout lui qui dirige l'appareil de sécurité et qui commande la répression. Et sur le plan constitutionnel, comme c'est une théocratie, il a aussi cette légitimité divine. Donc c'est pas une légitimité qui vient d'un vote. Donc, c'est vrai que son pouvoir, ceux qui croient dans son autorité, sont engagés de manière, disons, absolue et sont prêts à aller jusqu'au martyr, donc jusqu'à la mort pour le défendre. Donc, mais un autre pourrait surgir également. Donc ce qu'il faut voir, c'est au contraire, c'est s'il y a une solidarisation, donc une fraternisation entre les forces de sécurité et les manifestants, si les manifestations durent, et s'il y a la masse critique également. Donc ça, c'est le fameux point de bascule. Donc on s'en rapproche. C'est surtout lié à la situation économique dans ce cas précis. Et ce qui est nouveau dans ce mouvement de manifestation, dans ce mouvement social, c'est le fait que l'État n'a pas de réponse économique à apporter satisfaisante aux manifestants. C'est-à-dire qu'il ne peut pas régler le problème du taux de change de la monnaie nationale par rapport au dollar, de l'hyperinflation, de la perte du pouvoir d'achat, de l'affaiblissement des salaires, de la corruption systémique, donc de la répartition des ressources aussi, et de la politique étrangère et de la politique régionale, donc, parce que tout est lié à la relation avec les États-Unis. Donc il faudrait accepter les conditions de Trump, même la reprise du dialogue qui est évoquée aujourd'hui entre l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, et le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, n'est pas une condition suffisante. On a vu que la guerre des 12 jours a débuté entre deux rangs de négociations indirectes irano-américains. Donc le fait d'avoir un canal de discussion ne suffit pas pour la République islamique à se réconcilier avec les États-Unis, à avoir une réouverture de l'ambassade américaine à Téhéran. Donc c'est vraiment un problème structurel. Et pour le guide suprême qui est âgé, qui a 86 ans, c'est vrai que l'opposition aux États-Unis est structurelle et fondamentale, c'est partie de l'ADN du régime.
Oui.
Et donc on est dans cette situation où, pour régler la question économique, il faut une remise en cause de tout cet héritage de Roumanie, de 1979,
il faudrait se renier,
la prise d'otage de l'ambassade. Voilà.
Ce que vous dites, Clément-Terme, c'est qu'il faudrait se renier pour le régime, et on comprend bien que le régime ne va pas se renier, en fait. Négocier, c'est se renier, en quelque sorte, en tout cas pour le guide suprême. Est-ce que vous croyez à un bombardement américain, sérieusement? Enfin, on peut tout imaginer de Donald Trump, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça fait peur, au moins, aux autorités iraniennes?
Alors, effectivement, ils doivent, en plus du front intérieur, s'occuper du front extérieur. On a vu, pendant la guerre de deux jours, des cibles sécuritaires. On a vu également que la négociation, avoir un canal de discussion, ne suffit pas à éviter un conflit, parce que ça, c'était au printemps, l'espoir des dirigeants, c'est d'éviter un conflit avec Israël et les États-Unis, et pour se faire maintenir seulement un canal de discussion, mais un canal de discussion pour ne pas aboutir et ne pas signer d'accord. Donc c'est ça qui était intéressant. Et donc là, c'est l'échec de toute cette stratégie. Donc on est finalement dans une phase où s'ils se renient, s'ils acceptent de négocier parce qu'ils pensent que le régime va s'effondrer, donc comme dernier recours, par exemple, un tournant pragmatique, le problème, c'est, et vous avez raison de l'évoquer, c'est le risque de division interne. C'est-à-dire tous ces partisans qui ont été galvanisés depuis 1979 au cri de mort à l'Amérique, les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, donc ces milliers de forces qui agissent non seulement sur le territoire iranien, mais dans la région aussi et sur la scène internationale, pourraient aussi se retourner contre leur créateur. Donc il y a un risque de division interne. Et pour l'instant, le guide n'a pas choisi cette option parce qu'il pense que réformer en position de faiblesse, c'est ouvrir la boîte de Pandore et accélérer l'effondrement. Donc pour l'instant, la stratégie qui a été suivie systématiquement depuis 2009 à tous les mouvements, c'est une surenchère sécuritaire idéologique dans un premier temps, donc pendant quelques mois, et ensuite plus tard, essayer de prendre en compte les revendications des manifestants. Alors ils vont peut-être réussir à gagner du temps, mais il n'est pas sûr cette fois qu'ils arrivent à effectuer ce tournant pragmatique a posteriori pour régler les problèmes et maintenir un niveau d'acceptabilité de leur régime par la population. Là, on pense que peut-être le point de non-retour est atteint entre la majorité de la population et le système politique, puisque la majorité de la population pense que sa situation économique se détériorera aussi longtemps que ce régime sera en place.
L'Iran, on le sait, Clément Terme, est très affaibli, a perdu tous ses proxys, ses alliés et ses pays proches. Qui soutient encore l'Iran? Je vais plutôt le faire à l'envers d'ailleurs. Est-ce que la Chine ou la Russie, qui sont encore les alliés de l'Iran, ont une raison d'intervenir, de soutenir, en tout cas de prêter main forte à l'Iran aujourd'hui?
Alors oui, la République islamique peut compter sur ses forces supplétives. Donc il y a beaucoup de rumeurs qui disent, par exemple, que des forces irakiennes aideraient à réprimer. Donc c'est des rumeurs récurrentes qu'on entend à chaque mouvement de contestation, puisqu'il y a une difficulté à recruter aussi des forces de sécurité. Donc ils peuvent puiser peut-être dans des forces libanaises ou des forces irakiennes. Donc il y a toujours cette rumeur qui est là. On n'a pas de preuve définitive encore de ces actions-là, répressives sur le territoire iranien, à l'inverse de la présence iranienne dans ces pays-là. Par contre, sur le plan international, la Russie, oui, a une politique de grande puissance. Donc certes, elle a cette relation avec la République islamique, mais aussi avec des rivaux de la République islamique, qu'il s'agisse des États arabes du Golfe ou même Israël. Donc la Russie aide le régime à survivre, effectivement, avec notamment des technologies dans le domaine spatial, de surveillance. Donc il y a aussi les questions liées à la censure d'Internet, les capacités cyber du pays, ce qui est très important dans un contexte de contrôle de l'information. La Chine également joue un rôle majeur aussi dans les technologies de surveillance, dans la fourniture de matériel aussi pour réprimer. Donc on voit que c'est des partenaires indispensables, mais politiquement, ils reprennent le narratif de la République islamique qui présente les manifestants comme téléguidés depuis l'étranger. Donc ce narratif-là est promu au niveau international par ces pays-là, mais il est peu probable que ces pays se battent, envoient des troupes en Iran pour maintenir le régime en place.
Une situation qu'on suit de très très près et qui nous donnera l'occasion de reparler ensemble, Clément Terme. Je vous remercie beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite ce soir, c'est vous, Louise Baudet, qui remettait le monde à l'endroit.
Et on réinvente ce soir un serpent de mer, celui de la défense européenne et d'une armée commune dans les cartons depuis trois quarts de siècle.
Allez, juste après ça. Smoking blue dream on my karma sutra. Life is but a dream for a dark skinned bitch like me. Life gets dark when you're dark like me. Times get hard with a heart this big. Mouths get fed when your ass this thick. Count my sheep then I catch my Z's. I don't read y'all tweets, I delete y'all threads. Don't need weed to be 10 feet tall. I don't need keys when I knock down walls. Been pushing peace since bathroom stalls. Why sell my soul when I know I'm God? I be in the bag levitating through meditation. Need me girl, get up. Taking on all confrontation. Fuck a limitation. Need me girl, get up. Somewhere I know where everything is mine. All that industry plant shit whack. I see it on the blogs, I see you in the chats. You suck every rap nigga dick from the back. But what's the agenda when the it girl black? Y'all can't fathom that I work this hard. And y'all can't fathom that I earned this chart. Y'all can't stand my vibe cause I'm anointed. All y'all evil assholes just annoying. Blame it on the fame, blame it on the coke. Blame it on the douce, got you feeling low. Y'all wanna believe I'm on drugs and forsaken. They won't credit me so they blame it on Satan. Blame it on my label, blame it on my team. End of the day, everything is on me. Miss Bag Lady, little messiah. Little miss, hire them hoes, then fire them. I be in the bag, levitating through meditation. Need me girl, get up. Taking on all confrontation. Fuck a limitation, need me girl. Amongst the pussy rap, I still be popping pussy to my sister, so I can't agree with that. These niggas misogynistic, I'll address it on the album. For now, let's sink into the fact that hate don't make you powerful. Y'all monitoring spirits, go monitor that checkbook. Fashion week was radical, diamonds what my neck took. Tried to turn the other cheek, but y'all just too damn extra. I had to take it to the stew and show these niggas pressure. Father, forgive them, they gon' be hurt when I deliver. The album's 6 months old and need a fucking babysitter. I did 8 years of failing, plus a lot of cold winners. Used to be a starving artist, now I want the whole dinner, bitch. I want my things. Nissan to a Bentley coupe, fuck you mean. Got a cosign from K-Dot. She's baby king. God keep me from the bitterness. Help me reach the masses. All the black women gon' fit this shit. Le duo Doechi et SZA dans la playlist d'Inter avec Girl Get Up. Allez les filles, allez Louise Baudet, le monde à l'endroit c'est maintenant.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et Louise, vous nous expliquez pourquoi l'idée d'une armée européenne est un vieux projet qui refait surface.
Qui connaît Andrius Kubilius ? Pas grand monde. Hein. Et cela fait partie du problème. Il est lituanien, ex-premier ministre et surtout commissaire européen à la défense. Et il a un grand projet pour l'avenir de l'Union européenne, Andrius Kubilius. Une force militaire permanente de 100 000 hommes pour remplacer les troupes américaines stationnées en Europe. Façon de s'extraire de la tenaille qui nous enserre. Menace russe d'un côté, désengagement américain de l'autre. L'Amérique trumpiste qui convoite le Groenland et menace l'existence même de l'OTAN, pilier de la défense européenne depuis 75 ans. Or, cette armée européenne, elle n'est pas une idée neuve. Allez, on rembobine. 1954, une communauté européenne de défense est sur les rails, mais la France fait tout capoter. Une alliance des gaullistes et des communistes enterre la CED au nom de la souveraineté française.
Et 70 ans plus tard, Louise, le problème reste le même. Les gouvernements sont réticents à l'idée de créer un contrôle de leurs forces armées.
À l'idée de céder,
le contrôle.
Chaque pays de l'UE est responsable de sa propre défense, qui n'est pas une compétence commune. Raison pour laquelle vous ne connaissiez pas Andrius Kubilius avant ce soir, hein, Fabienne, c'est bien ça.
C'est vrai.
Pourtant, sur le papier, si on additionne toutes les armées européennes, cela fait plus de soldats que la Russie et plus que les États-Unis. Mais cette supériorité numérique est virtuelle. Notre capacité à faire la guerre ensemble dépend des Américains, qui assurent le commandement militaire de l'OTAN depuis sa création. Et les Européens sont pour l'instant incapables de se débrouiller seuls dans des secteurs clés, renseignement, ravitaillement et dans une large mesure défense antiaérienne.
Pourtant, depuis 2022 et l'agression russe de l'Ukraine, on parle beaucoup d'autonomie stratégique et de défense européenne.
Oui, avec une foultitude d'acronymes à la clé, SAFE, EDIP, ETF, EDIRPA, bien dans la manière bruxelloise, des programmes pour développer les industries d'armement, compétences du coup de l'Union européenne. 800 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030, annoncés fièrement il y a bientôt un an. Le problème, c'est qu'il faut activer ces outils, les traduire en contrats fermes, autrement dit mutualiser les capacités industrielles, aligner les calendriers, investir et produire en européen, tout ce que les Allemands et les Français ne parviennent pas à faire avec le SCAF, ce projet d'avion du futur encore repoussé malgré les promesses de Berlin et Paris.
Il faudrait donc produire mais aussi acheter européen, on en est très loin.
Oui, la préférence européenne n'est pas une obligation et l'urgence conduit de nombreux États, la Pologne, les Pays-Bas, l'Allemagne, les Scandinaves, à acheter vite des systèmes américains ou israéliens immédiatement disponibles. L'engagement des pays de l'OTAN à porter leur effort de défense à 5% du PIB est d'ailleurs une façon de se concilier l'administration Trump en promettant d'acheter américain. Et certains pays mettent le paquet. L'Allemagne ambitionne d'aligner la première armée conventionnelle du continent en investissant deux fois plus que la France ou le Royaume-Uni. Mais ce nerf de la guerre financier dépend de marges de manœuvre budgétaires incertaines. Croissance poussive en Allemagne, économie atone au Royaume-Uni, dette publique considérable en France, bien sûr. Comment financer le mur d'investissement militaire tout en préservant les budgets sociaux ou les systèmes de retraite? Choix budgétaire cornélien auxquels sont confrontés les poids lourds européens.
Louise Baudet, merci beaucoup. À demain, le reportage.
We are Minnesota's people.
We are Minnesota's.
Un jour dans le monde, c'est un jour à Minneapolis. Ce soir, vous le savez, la tension est toujours aussi vive, 5 jours après la mort de Renee Good, cette femme de 37 ans tuée par un policier de l'immigration. Les manifestations n'ont pas cessé tout le week-end dans une ville au cœur du combat contre l'administration Trump. Et le reste, c'est Franck Madvon qui raconte.
Nous sommes le peuple du Minnesota, chante la foule pour l'un des nombreux rassemblements de ces derniers jours en hommage à Renee Good. Ils sont peut-être 2000 au pied du majestueux Capitole de l'État à Saint-Paul, la ville jumelle de Minneapolis. Tristesse et surtout colère contre la version de l'administration Trump qui accuse la victime de terrorisme. Tim est instituteur.
Le narratif de Trump est complètement faux. C'est un mensonge après l'autre. Et je suis frustré que tant de personnes dans ce pays refusent de défier ce mensonge, refusent de dénoncer ces gens, de dire ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, parce qu'ils ont peur de sortir du rang, peur de s'exprimer.
Comme beaucoup de manifestants ici, ce drame rappelle à Tim une autre tragédie. En 2020, la mort de George Floyd, étouffé par un policier blanc, suivi de manifestations parfois violentes, mais l'affaire du moment est d'une autre nature.
Il y a 6 ans, c'était bien plus une bataille interne. On se battait avec notre police. J'ai le sentiment que cette affaire a été un tournant et que nous sommes beaucoup plus unis. Là, c'est un drame de nature externe. C'est une attaque contre nos valeurs, nos croyances, qui vient de l'extérieur.
George Floyd, la communauté somalienne montrée du doigt pour de présumées fraudes, des démocrates locaux haïs par l'administration comme le gouverneur Tim Walz, ex-colistier de Kamala Harris, et maintenant donc René Good. L'histoire tourmentée des présidences Trump passe forcément par Minneapolis. Une cible pour la Maison-Blanche ? La réponse de Molly.
Je pense que oui, parce qu'on vote démocrate depuis des années. Trump mène aussi une vendetta contre le gouverneur Waltz. Donc je pense qu'on est une cible. Et je pense qu'il tente de faire de nous un exemple. Mais on est unis, on va continuer à se montrer et j'espère qu'ICE finira par partir.
ICE, la police de l'immigration à qui tous les manifestants demandent de partir. Dans cet autre rassemblement plus vindicatif, Jesús brandit un drapeau mexicain. Il est là pour les nombreux immigrés, clandestins mais aussi légaux, qui redoutent ces agents fédéraux débarqués la semaine dernière à Minneapolis après des raids dans plusieurs autres villes américaines.
Les gens ici ont peur d'ICE. C'est comme ça partout dans le Minnesota. Je suis là pour être une voix pour ces gens-là. Les actions d'ICE, on ne peut rien faire pour les réparer. Juste se lever en tant que communauté, se rassembler, leur montrer qu'on ne reculera pas, qu'on ne les laissera pas prendre notre ville. Et ICE est partout, pas seulement ici.
Minneapolis, on l'a dit, c'est donc aussi la ville de George Floyd. Un mémorial lui rend aujourd'hui hommage à quelques blocs de là où a été tué René Good. Des fleurs, des peintures, des photos, des messages célébrant l'égalité, la dignité, le combat antiraciste. Un homme aux lunettes dorées se charge d'entretenir les lieux. Il se fait appeler Maestro. Voici sa réaction quand on lui demande son sentiment sur la mort de René Good.
Les policiers sont, de manière intentionnelle ou non, des tueurs surentraînés. Ils doivent mettre de côté leur logique et leur raison et suivre le narratif qu'on leur impose. C'est une année de fou ici aux États-Unis. Ces gens ne sont plus rationnels et ont abandonné leur libre arbitre.
Aisha Gomez est la représentante démocrate du district où René Good a été tué. Elle a vécu la mort de George Floyd il y a près de 6 ans.
Ce sont des affaires de violence d'État. Ce sont deux histoires d'individus payés par les contribuables qui ont violé leur serment. Ça concerne tous les mouvements pour la justice dans ce pays. Il faut essayer de préserver la dignité de chacun face à la déshumanisation qui précède ce type d'action.
Cette fois, pour le moment, Minneapolis ne s'embrase pas, mais un autre drame, une étincelle, pourrait déclencher un nouvel incendie.
Franck Madvon pour le reportage, merci beaucoup. La suite, ce soir, c'est Sous les radars qu'on va la chercher avec vous, Guillaume Audin.
Oui, Sous les radars au Mali, où les djihadistes continuent de mettre la pression sur le pouvoir en place. Ils s'attaquent maintenant à l'économie.
Et la BO du monde, Cyril Sauvageau.
La chanteuse islandaise Björk appelle le peuple du Groenland à revendiquer son indépendance.
Allez, à tout de suite les amis, ne partez pas trop loin. Dans notre tour de la planète quotidien, nous vous offrons cette petite pépite. Laurent Epstein et Vanisha Gould, la chanson d'Hélène, version piano de New Yorkais. Vous reconnaîtrez évidemment le film Les choses de la vie, c'est le choix musical de Djoubaka.
I see September's moon and I'm closing my room. Now the sun
my life. Hein. C'est vraiment très 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 beau ce qu'on est en train d'écouter. D'ailleurs, je vous le dis, hein, l'album s'appelle French Movies in New York. Allez-y, c'est formidable. Laurent Epstein et Vanisha Gould, merci encore à Djoubaka. L'homme qui regarde sous les radars s'appelle Guillaume Audat.
Vous voyez les gines en CSM des Carrelas, qui a été attaqué par les djihadistes.
C'est une usine en flammes que décrit cet homme, un site industriel attaqué par les djihadistes à l'extrême ouest du Mali.
La scène s'est déroulée hier à une petite centaine de kilomètres de la frontière avec le Sénégal, une région du Mali assez stratégique. Elle se trouve sur un axe de chemin de fer entre Dakar d'une part et Niamey d'autre part, au Niger cette fois-ci. À Kayes, donc, zone industrielle malienne qui s'est développée autour des voies ferrées. Près d'une 150 de djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont pris d'assaut 4 cimenteries avec force moto, pick-up et armes lourdes. Ces scènes ont été filmées, évidemment diffusées sur les réseaux sociaux pour être vues. Ce que l'on découvre, ce sont donc des bâtiments ravagés, des locaux pillés et pire, des salariés maliens et étrangers qui ont été enlevés. À côté des pénuries de carburant organisées depuis septembre dernier, les djihadistes cherchent maintenant à étrangler le Mali en cassant son économie. Le but, ravir le pouvoir, imposer leurs lois au détriment de 25 millions de Maliens coincés entre une junte autoritaire et des djihadistes moyenâgeux.
The International Court of Justice has ordered Myanmar to protect Rohingya Muslims and prevent
further acts of genocide. À La Haye, les Rohingyas plaident leur cause devant la Cour internationale de justice. La Birmanie est accusée de génocide. De lourdes charges pèsent sur Rangoon.
On peut dire que le sort des Rohingyas se joue véritablement à partir d'aujourd'hui devant la CIJ, c'est le tribunal le plus important des Nations Unies. Leur sort aux Rohingyas, minorité musulmane, vous l'avez dit, et leur avenir au sein de ce pays d'Asie du Sud-Est, la Birmanie, 55 millions d'habitants, c'est de cela hein, dont il était question aujourd'hui et pour les jours qui suivent. En 2017, les autorités avaient martyrisé la province du Rakhine, tout à l'ouest du pays. C'est là qu'était concentrée la plupart des 2 millions de Rohingyas, avant que 7000 d'entre eux ne soient massacrés par l'armée, des femmes violées et des villages brûlés. Une campagne de terreur qui, à l'époque, avait provoqué l'exode de 700 000 Rohingyas vers le Bangladesh voisin, sachant que pour Rangoon, cette minorité n'a jamais été birmane, mais bangladaise. Alors la CIJ, elle n'a pas vocation à statuer sur la citoyenneté de ces Rohingyas, mais devra dire néanmoins, et en vertu de la Convention sur le génocide, si le crime des crimes a été commis et si de fait les Rohingyas doivent être protégés par les autorités. Les débats commencent à peine, mais comme toujours sur ces questions, on a en tête évidemment l'exemple de Gaza. Il faudra plusieurs années aux magistrats pour dire si l'intention a accompagné la commission du crime et donc si oui ou non un génocide a été perpétré.
L'histoire, Guillaume, pour finir, d'une institution bombardée, pillée, vidée de ses pièces les plus précieuses. Mais même s'il est à terre, le musée national du Soudan va renaître de ses cendres.
Et ce sera fin janvier, et c'est le vœu de l'une de ses conservatrices qu'on a entendu. Ils sont une poignée comme elle à croire que la culture, ça sauve des vies et à tenter de le matérialiser. Sauf qu'au Soudan, la guerre civile est passée par là. Il ne reste quasiment rien des 100 000 vestiges antiques. Les pillards n'ont laissé derrière eux que les plus difficiles à transporter. Mais l'ensemble des œuvres a été reconstitué en 3D afin que renaisse ce musée sur Internet, comme à Mossoul en Irak. Le virtuel permet de recréer des collections et in fine de préserver la mémoire, une façon de crier au monde que le musée national du Soudan n'est pas mort et qu'il respire encore.
Guillaume Audat, merci beaucoup. À demain. La BO du Monde, c'est Cyril Sauvageon.
France Inter, le 18-20.
Au Groenland, Cyril, ce soir, où les menaces d'annexion de Donald Trump font réagir, la chanteuse islandaise Björk a décidé de prendre la parole en soutien au peuple groenlandais et elle le fait bien sûr en musique.
Et il se trouve que dans le répertoire de Björk, il y a un titre idéal pour accompagner ce coup de gueule.
Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you.
Declare Independence, un morceau paru initialement en 2007 sur l'album Volta, est devenu depuis un incontournable de ses concerts, même si ce n'est pas la mélodie la plus facile de Björk. La chanteuse a tenu à remettre ce titre en avant pour appeler les Groenlandais à prendre en main leur destin, à revendiquer l'indépendance.
Language.
Dans un post Instagram il y a quelques jours, la star islandaise renvoie dos à dos l'Amérique de Donald Trump et le Danemark, à qui appartient aujourd'hui ce territoire groenlandais. Le risque que le Groenland passe d'un colonisateur à l'autre est trop brutal pour que l'on puisse même l'imaginer, écrit-elle. Il faut dire que les Islandais en savent quelque chose. Eux qui ont longtemps vécu sous la férule du royaume du Danemark jusqu'en 1944, le colonialisme me fait horreur, déclare Björk, en évoquant les pages les plus sombres de la politique danoise, les cas de stérilisation forcée de femmes groenlandaises. Le poste renvoie d'ailleurs vers plusieurs enquêtes de presse parues sur le sujet.
Cyril, c'est pas la première fois que Björk utilise sa musique en soutien à l'autodétermination des peuples. C'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur.
Et tout nous ramène encore une fois à ce morceau d'Eclair Independence, qui est devenu une sorte de manifeste politique au fil des années. Björk ne rate jamais l'occasion de faire une dédicace en concert au moment de le jouer. L'anecdote la plus fameuse remonte à 2009 à Shanghai, en Chine. Elle balance sur scène le sujet qui fâche pour Pékin. Voilà, désolé pour la qualité sonore de cette archive, mais on distingue Björk en train de scander « Tibet, Tibet », une manifestation de soutien à la cause tibétaine qui lui vaudra la réprobation des autorités chinoises. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Au fil des tournées, on verra aussi l'Islandaise prendre fait et cause pour le Kosovo face à la Serbie, pour les Palestiniens au Proche-Orient ou encore se ranger du côté des Écossais lors du référendum de 2014, référendum pour l'indépendance. Raise your flag, hissez votre drapeau, ce slogan répété en boucle sur fond d'électro stridente et agressive n'a rien perdu de son actualité, sans même encore plus pertinent dans la tempête géopolitique actuelle. Vous me direz que tout cela ne pèse pas bien lourd face à l'appétit vorace de Donald Trump vis-à-vis du Groenland, mais on ne peut que saluer ce sursaut de fierté nordique venant de celle qui reste sans doute la plus grande star musicale du Grand Nord.
Merci beaucoup Cyril Sauvageau, à la semaine prochaine.